Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du jour dans Vivante Église. Un rendez-vous consacré en cette semaine particulière puisque ce dimanche, nous fêterons ce dimanche de la miséricorde et cette émission est consacrée à Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est un peu chacun de nous, qui que nous soyons, quel que soit notre parcours, notre histoire blessée. Marie-Madeleine est cette figure de notre humanité blessée et pécheresse. Au fond, ne sommes-nous pas appelés à reproduire le geste de repentance de Marie-Madeleine, à accompagner Jésus au calvaire, à annoncer sa résurrection et à rendre grâce pour l'infinie miséricorde de Dieu pour les créatures qui reviennent à lui avec un cœur contrit. Sainte Marie-Madeleine, une figure qui fascine. Avant qu'elle ne rencontre Jésus, les évangélistes nous livrent que très très peu d'éléments de cette femme, juste qu'elle était possédée par sept démons et que Jésus l'avait délivrée. Alors Marie-Madeleine était-elle la pécheresse évoquée dans l'évangile de Saint-Luc, Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, ou bien une toute autre personne? Pour intervenant, je reçois au micro de cette émission de Vivante Église Vincent Delphi, auteur d'un livre que je vous conseille, qui s'intitule « Jésus, des mystères de la Bible au temps de confusion ». Bonjour Vincent Delphi. Bonjour, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors dans cet ouvrage, un gros ouvrage puisqu'il y a près de 700 pages, plus de 100 chapitres, entre autres, aujourd'hui on parle de Sainte Marie-Madeleine, vous évoquez et vous consacrez une vingtaine de pages à Marie-Madeleine et aussi à Sainte Faustine. Sainte Faustine, c'est tout le message de Jésus pour le monde sur ce thème de la miséricorde. Alors tout d'abord, merci d'être dans cette émission de Vivante Église. Racontez-nous un peu toute l'histoire de cette miséricorde avec ces personnages si importants et je pense en particulier à Marie-Madeleine.
Eh bien, la Providence fait bien les choses, puisque Sainte Faustine, en fait, oui, qui a, grâce à elle, a été instituée la fête de la Divine Miséricorde le premier dimanche après Pâques. C'était une jeune fille qui a été appelée très tôt, à 7 ans, à la vie religieuse, mais elle a exercé des tâches domestiques, tout été. Et puis, finalement, elle est entrée à 20 ans, dans la congrégation de la Divine Miséricorde, dont la Sainte Patronne est Marie-Madeleine. Voilà, on peut comprendre certaines choses, rétrospectivement bien sûr. Et donc c'est grâce au pape Jean-Paul II, qui a connu d'ailleurs le sanctuaire où était enterrée Sainte Faustine, à côté du Christ miséricordieux, que vous connaissez l'image, avec Jésus j'ai confiance en toi et les rayons qui sortent de son cœur. Donc, il n'était pas encore ni archevêque, ni pape, et il l'a prié, bien sûr. Il l'a fait connaître, il l'a canonisé dans le grand jubilé de l'an 2000, et la Providence a fait, là aussi, qu'il est mort dans la vigile de la fête de la miséricorde. Bon, c'est tout de même un signe qui nous incite à réfléchir, surtout aujourd'hui. Quand nous avons sous les yeux la vision du monde avec tout ce qui se passe, bien, on se rend compte que nous avons besoin de cette miséricorde. Et la semaine de la miséricorde, le Christ demande impérativement, quels que soient nos péchés, qu'ils soient rouges ou comme l'écarlate, bien qu'on communie, mais d'abord qu'on se confesse, et qu'on fasse une confession complète. Complète. La miséricorde de Jésus n'a pas de limite. Et en même temps, elle a eu des charismes, bien sûr, des stigmates qui étaient invisibles, la bilocation, la prophétie, et surtout, dans l'année de sa mort, cette prophétie de l'Apologne jaillira l'étincelle qui préparera le monde à ma seconde venue. Qui a préparé le monde à sa seconde venue ? Celui qui a parlé de la civilisation de l'amour et qui l'a vécu, qui a vécu la souffrance. Voilà. Donc là, il y a des signes tellement forts qu'on est obligé de prendre au sérieux cette demande du Christ. Et vu la situation du monde à l'heure actuelle, on devrait même être presque tous à genoux en ce moment. Voilà. Donc, alors on va peut-être repartir.
Alors, du on début. Repart, mais on garde aussi le cap, puisque c'est ce dimanche bien que sûr, nous célébrons sûr, ce dimanche sûr, de la miséricorde. Alors qu'a-t-elle donc fait, Sainte Marie-Madeleine, pour devenir l'une des plus grandes saintes du christianisme?
Qu'a-t-elle donc fait? Alors d'abord, les évangiles. Les évangiles nous parlent d'une onction qui a été réalisée au cours d'un repas dans les quatre évangiles. Ces quatre onctions, en fait, il y a trois femmes. La pécheresse dans l'évangile de Luc, Marie, vous avez dit tout à l'heure, de Béthanie, mais c'est Marie dite de Béthanie, parce que Marie de Béthanie n'existe pas. Il y a une Marie à Béthanie, avec sa sœur Marthe et Lazare, mais on ne trouvera pas, d'ailleurs, les textes, si on regarde en grec, pour Lazare, c'est Apobétania, il est vraiment... Il y vit, il y a sa maison. Marthe a d'ailleurs une maison ailleurs, on le voit dans l'évangile de Luc, c'est, je crois, le chapitre 10. Et puis, bien sûr, il y a le troisième personnage qui est Marie-Madeleine. Mais de Marie de Béthanie, il est dit « Ectes comes Maria », c'est-à-dire « originaire ». Mais elle a été appelée « la Magdalene ». Alors, je vais essayer de le montrer. Donc, quatre onctions au cours d'un repas, dans chacun des évangiles. Alors, nous allons commencer par Luc, puisque chez Luc, c'est au début du ministère de Jésus. Et voilà qu'au milieu d'un repas où Jésus est invité, mais il y a d'autres convives, on le découvre à la fin, il est invité chez Simon le pharisien. C'est la rigueur, hein, vous savez que je ne vais pas vous dire qui sont les pharisiens. Jésus est invité, et voilà qu'arrive inopinément une pécheresse qui va tout de suite aux pieds de Jésus. Elle pleure à chaudes larmes, on peut dire. Elle essuie les larmes sur les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et ensuite, elle les oint de parfum. Et là, le pharisien se dit à lui-même, Simon, donc, dit, mais si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, une pécheresse. Et Jésus a entendu ce que pensait en fait Simon, et lui répond. Il lui répond en le confrontant aux usages de cette époque. Finalement, lui, il a reçu, mais n'a pas versé, comme c'est la coutume, de l'huile sur sa tête, il ne lui a pas donné de baiser, alors que Marie-Madeleine, qui ne dit pas un mot dans cette scène, est à ses pieds, elle pleure. Et Jésus lui dit qu'à cause de son amour, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont pardonnés. Et les convives disent, mais quel est-il cet homme pour dire qu'il remet les péchés? Et là, Jésus s'adresse à la pécheresse et il lui dit, tes péchés te sont remis, va en paix. C'est comme s'il y avait eu une confession implicite, sans aucun mot, mais ils se sont compris. Or, pour qu'elle pleure ses péchés, c'est que soit elle l'avait entendu avant, donc là c'est le chapitre 7, cette scène est mise dans le chapitre 6 de Saint-Luc. Il y a la scène du serment, le fameux serment des béatitudes. Et le serment des béatitudes commence par « Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux ou leur appartient ». Effectivement, aussitôt après la scène de la pécheresse, Luc nous donne le nom des femmes qui suivaient Jésus depuis la Galilée et qui l'assistaient de leurs biens. Alors, ce sont des femmes aisées. Hein. Il y a Jeanne, l'épouse de l'intendant du roi Hérode, Jeanne de Souza. Mais en premier, il nomme Marie la Magdalène. Donc, Magdala, c'est un petit port sur les bords du lac de Tibériade. Alors, je ne vais pas dire que c'est la chanson de Jacques Brel, dans le port d'Amsterdam, mais voyez ce que... pour être une personne, une grande pécheresse. Mais non, la ramener simplement à la prostitution, c'est faux, parce que il est dit, donc, dans ce même passage, où il cite Marie la Magdalène, Marie la Magdalène en premier, de laquelle a été expulsé sept démons. Sept. C'est le chiffre sacré de la Genèse. Il y a une inversion, oui, une inversion satanique. C'est-à-dire, ses péchés, c'est nombreux péchés, comme il l'a dit. Mais ces nombreux péchés, à la fois, une sorte de perfection dans le vice, parce que tout est mêlé. La magie, regardez aujourd'hui, la magie, c'est à la fois le candomblé, la santé, il y a le vaudou, etc. Mais il y a toujours un substrat de magie, et substrat sexuel. Ça va de pair. Et on est dans un monde aujourd'hui hyper sexualisé, où on ne croit plus trop non plus aux exorcismes. Ça va de pair. Hein. On dira, voilà. Donc voilà, donc, je dis peut-être l'essentiel sur ces scènes-là. On va passer tout de suite à Matthieu et Marc. Donc c'est les deux autres synoptiques. Chez Matthieu et Marc, comme chez Jean d'ailleurs, la scène se passe non pas au début du ministère de Jésus, mais à la fin, juste avant la Passion. Cette onction se fait juste avant la Passion. Et donc, là, chez Matthieu et Marc, c'est une femme. Il n'est plus dit pécheresse, une femme, simplement une femme. Et celui qui reçoit n'est plus Simon le pharisien, mais Simon le lépreux. Premier constat. Un lépreux, mais c'est invraisemblable. Simon le lépreux, ça ne peut être qu'un surnom, ou alors, c'est que Simon aurait été guéri de la lèpre. Puisque vous savez que les lépreux étaient tenus à l'écart des villes, ils étaient impurs, d'ailleurs on criait impurs quand on les voyait. Donc ça pose de problème, mais c'est le même prénom, Simon. Et c'est une femme qui n'est toujours pas nommée. Et là, Jésus va faire une prophétie. Mmh. Parce que les convives se plaignent. Ils se plaignent, mais elle a versé quand même du parfum. Non pas sur les pieds, mais sur la tête. Et un parfum de grand prix. Grand prix. Ah, bon, ce parfum-là. Et Jésus leur répond. Mais elle a fait cela pour le jour de ma sépulture. Donc ça voulait dire qu'elle avait une prémonition.
Donc elle avait, Marie-Madeleine, permettez-moi, Vincent Delphi, oui. Elle avait une prophétie.
Exactement, il y a quelque chose de prophétique là, effectivement. Et d'ailleurs, depuis
la résurrection. Ce geste de Marie-Madeleine est hautement symbolique.
Tout à fait. Mais bien sûr, bien sûr, il est plus que symbolique, puisque chez Luc, elle le fait sur ses pieds. Hein. Là, oui, c'est sur sa tête. Oui. Mais nous sommes près de la Passion. Donc, et il dit ceci partout. Dans le monde où cet évangile sera proclamé, on redira à sa mémoire ce qu'elle a fait. Mais je me pose une question. Comment on peut redire à sa mémoire alors qu'on n'a pas dit son nom? C'est simplement une femme. La question se pose.
Ça, c'est au fond la grande question.
Mais oui, bien sûr. Or, si on est passé Simon le lépreux, ben, on a des chances de penser que mais oui, chez Jean, ça va être Lazare, parce que Lazare est le nom d'un lépreux dans la parabole de Luc qui, justement, dans cette parabole, tous les exégètes ont remarqué que c'est la seule parabole où Jésus donne le nom du héros d'une parabole, qui est un pauvre, qui s'oppose finalement aux riches. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de transfert qu'on va trouver chez Saint Jean, puisque chez Saint Jean, par contre, là, à nouveau, l'onction va être faite sur les pieds chez Saint Jean. Mais elle ne pleure pas. Mais elle demeure muette. Et là, pareil, c'est Judas qui l'apostrophe. Que n'a-t-on vendu ce parfum 300 deniers qu'on eût donné aux pauvres? En fait, bref, Judas s'arroge le droit de donner ce qui ne lui appartient pas et de donner une leçon de charité aux apôtres et même à Jésus. Hein. Que n'a-t-on? Ils sont présents pourtant, Jésus, les apôtres. Et donc Jésus va le reprendre en lui disant « Les pauvres, vous les aurez toujours. » Mais il y a toujours cette prophétie. Elle a fait ceci pour le jour de ma sépulture. Tantôt c'est l'ensevelissement, pour le jour de la sépulture, pour le jour de ma sépulture. C'est vrai qu'elle avait deviné qu'on allait tuer Jésus, mais aussi depuis la résurrection de Lazare, dont les Juifs voulaient tuer Jésus, mais également Lazare, son frère. Et tous les exégètes nous voient bien que c'est les larmes de Marie-Madeleine dans l'évangile de Jean, au moment de la résurrection de Lazare, qui est antérieure à l'onction. Mais on ne sait pas de combien de temps. Voilà. Mais on a enchaîné ces scènes. Et donc, oui, c'est les larmes de Marie-Madeleine qui ont amené Jésus bien à ressusciter Lazare. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire, comme certains, que bon, lorsque Marthe parle et dit, mais Seigneur, c'est le quatrième jour, il sent déjà, il sent déjà. La lèpre, est-ce que c'est de la lèpre qu'est mort Lazare? Voilà, on peut se poser la question, hein. Ce qui fait qu'il aurait reçu, non pas cette fois après avoir été ressuscité, le nom de Simon, mais de Lazare, qui est le nom du pauvre, qui est opposé au riche, puisque le pauvre était à la table du riche, et en fait, il recueillait les miettes, et il était couvert d'ulcères, parce qu'à cette époque-là, on ne distinguait pas la maladie de Hansen, qui aujourd'hui est simple, la lèpre, mais toutes les affections de la peau. Or, ce malade était couvert d'ulcères, et les chiens venaient lécher ses plaies. Et d'ailleurs, ce terme de Lazare est resté, en ancien français, sous forme de ladre, hein, les ladres qui étaient les lépreux. Et les lazarets étaient les endroits où, voilà, où on recueillait à l'extérieur des villes. Toujours.
Alors, dans ce premier quart d'heure, voilà, de cette émission de Vivante Église consacrée en cette semaine, au fond, rappelons-le, Vincent Delphi, à ce dimanche de la miséricorde, Dieu est miséricorde, Dieu ne veut perdre aucune de ses créatures. Oui. Hein, et l'exemple parfait. Et cette créature, Marie-Madeleine, on entend bien que ce personnage fascine encore aujourd'hui, ce personnage de Marie-Madeleine qui verse ses larmes, qui a une véritable contrition, qui sera présente au calvaire, qui à la résurrection.
Ah, mais oui, manque. Voilà, c'est ça l'important.
Que dit Marie-Madeleine pour aujourd'hui
Mais d'abord, il faut parler de la résurrection. Effectivement, vous avez bien fait, il faut le rappeler.
Puisque on a le temps d'en parler
là, encore. Les quatre évangélistes sont d'accord. Marie-Madeleine est nommée la première au tombeau. Et il y a une apparition particulière. Et chez saint Jean, en plus, bon, il l'appelle par Marie, comme il l'avait appelé à Béthanie.
Tout à fait.
Bien entendu. Et là, justement, Marc rappelle à ce moment-là, il joint alors la résurrection de Jésus au fait qu'il a expulsé d'elle 7 démons. Ce qui avait été dit par Luc au tout début. Mais c'est à elle qu'il a littéralement arraché aux enfers ses péchés, ses nombreux péchés et sa contrition surtout. Parce que si ça ne s'agit seulement que de l'exorcisme, en fait, d'avoir expulsé sept démons, mais le mérite n'en revient pas à Madeleine. Mais libérée de cette emprise démoniaque, alors là, elle se voit telle qu'elle est, avec ses péchés, ses nombreux péchés, et elle va pleurer aux pieds de Jésus, à ses pieds. Elle ne dit pas un mot, et c'est là qu'il y a cette sorte de confession magnifique. Et donc, oui, Marie-Madeleine est apôtre des apôtres, puisque Jésus la charge de l'annoncer aux apôtres. Et vous savez, la suite, Pierre et Jean partent au tombeau en courant.
Voilà. Oui, ça, nous, on va partir, et vous allez rester dans les studios, puisqu'on va vous retrouver dans quelques instants. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. Voilà, et on retrouve bien sûr avec vous, presque au matin de Pâques. On ne perd pas du tout Marie-Madeleine, on se met au fond à son école, pécheresse repentie, mais debout, et rappelons-le, vous venez de rappeler aussi cette appellation, Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres.
Et oui, puis, c'est le titre qu'on lui donne actuellement, oui.
Tout à fait, mais
il n'en reste pas moins qu'elle est pénitente, sinon on ne comprendrait pas cette volonté de Jésus.
Et on va en parler dans quelques minutes, de Marie-Madeleine pénitente. Oui. Restez avec nous, merci.
Église, Nathalie Cardon.
Suite de cette émission Vivante Église consacrée en cette semaine particulière, puisque ce dimanche, je vous le rappelle, nous célébrons le dimanche de la Miséricorde, institué sous le pontificat de Saint Jean-Paul II, le 30 avril 2000. Mon invité intervenant pour évoquer un peu d'histoire de cette figure de Marie-Madeleine, une figure emblématique, une femme passionnée, une femme amoureuse, une disciple fidèle de Jésus. Vincent Delphi, je rappelle que vous êtes auteur d'un livre de près de 700 pages. Pour ceux qui sont curieux, une table des matières très très complète avec plus de 100 chapitres. Il s'intitule « Jésus, des mystères de la Bible, autant de confusion ». Vincent Delphi, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Donc on consacre encore cette deuxième partie d'émission à ce visage féminin emblématique qui fascine encore celui de Marie-Madeleine et ce geste fort. On en parlait, mais vous pouvez peut-être réintroduire le symbole fort, prophétique, visionnaire de Marie-Madeleine.
Oui, le geste de l'onction.
Le geste de l'onction.
Alors, écoutez, on est dans la semaine de la Miséricorde. Et donc, je voudrais rappeler d'abord que les pères de l'Église, je pense à Saint Jean Chrysostome, Saint Thomas d'Aquin, mais il y a aussi Saint Grégoire le Grand, Saint Augustin, j'allais oublier, qui nous disent que Marie-Madeleine...
C'est les grands docteurs que vous nommez.
Ah oui. Ouais. Marie-Madeleine est le seul personnage de l'Évangile qui soit venu trouver Jésus, non pas pour demander la guérison de son corps, mais pour pleurer à ses pieds ses péchés, ses nombreux péchés, comme dit Jésus. Et c'est d'elle qu'il a expulsé 7 démons, c'est-à-dire une multitude. Et je rappelle que, bon, dans l'exorcisme, elle n'y est pour rien, mais par sa contrition et le fait qu'elle ait suivi Jésus dès ce moment-là. Ce changement de vie fait d'ailleurs qui est celui de Sainte Faustine aussi, puisque l'ordre dans lequel est entrée Sainte Faustine, la congrégation de la Divine Miséricorde, la Sainte Patronne et Marie-Madeleine. Et cet ordre recevait toutes les jeunes filles et les femmes qui étaient là pour on va dire pudiquement, un renouveau moral. Voilà.
c'est joliment dit.
Voilà, exactement. Mais oui, les pères de l'Église en parlent, alors on revient au geste de l'onction. Ouais. Effectivement, c'est important, vous savez, parce que quand on entend aujourd'hui parler du féminin sacré et qu'on fait de Marie-Madeleine tout ça pour ramener Jésus à un simple mortel comme vous et moi, c'est terrible, parce que les textes ne permettent pas de dire que Marie-Madeleine a effectué sur Jésus une onction sacerdotale, qu'elle l'a oint, puisque... Je pense à un certain auteur franc-maçon, qui est reçu d'ailleurs dans une certaine radio, même catholique, et qui nous dit, qui écrit dans ses livres que le crio, ce qui est exact, veut dire joint, c'est-à-dire du verbe oindre, et que donc Christos est le participe passé de oindre, Christ, et donc Marie-Madeleine a oint le Christ, et donc c'est une onction sacerdotale. Non. Le texte en grec, puisque les évangiles sont écrits en grec, ce n'est pas du tout le même mot qui est employé. Donc, le verbe grec employé dans Luc, puisque la première onction au pied de Jésus se passe chez Luc, et après, peu avant la Passion, chez les autres synoptiques et chez Jean, dont le verbe employé c'est « aleifo », et la forme conjuguée, la ori, c'est « eleifen ». Donc, ça n'a rien à voir avec « crio ». Et après, il y a un autre verbe qui est employé chez Matthieu et Marc, c'est katakeo, ça veut dire verser, répandre du parfum. Voilà. Eh bien, écoutez, donc, voilà, ce n'est pas un geste sacerdotal, pas du tout. D'ailleurs, il s'agit d'un vase d'albâtre. On sait très bien que tous les récipients sacrés dans le temple, comme dans la tente de l'Exode, déjà, c'était des vases en or pur, non pas un vase qui contenait du parfum. Bon, mais voilà, si je peux me permettre, je voudrais donner un signe dans notre région, voyez, parce que notre région est le berceau des Dominicains. On pense à la Sainte Baume.
Oui, et puis on n'oublie pas aussi Saint-Dominique.
Bien sûr, bien sûr. La maison mère est à Toulouse, mais Il ne faut pas oublier que Saint-Dominique, traversant notre région pour aller préparer un mariage princier, découvre le catharisme et cette hérésie terrible, terrible. Il voit la catastrophe et il demande l'autorisation qui lui est accordée par le pape et il vient dans cette région s'intégrer dans un petit village de l'Aude, Fangeaux. Et là, dans la nuit du 22 juillet 1206, il voit une boule de feu traverser le ciel et venir s'abattre dans la plaine en bas. Et c'est là que Saint-Dominique va construire son premier monument, le premier couvent, le premier monastère. Pour qui ? Pour les femmes cathares repenties, pour les Marie-Madeleine de son époque. Et c'est la boule de feu, l'Esprit Saint, qui, dans cette nuit du 22 juillet, fête de Marie-Madeleine, lui a donné la raison, alors que le monastère lui-même est dédié à Notre-Dame. Et c'est étonnant. Et d'ailleurs, un évêque plus tard, Monseigneur Biard, lorsque le monastère aura été détruit à la Révolution, reposera la première pierre le 22 juillet en la fête de Marie-Madeleine.
C'est très beau, hein, un signe, un miracle.
Et, on parlait donc des Dominicains, de là on peut passer à la Sainte-Baume.
Et pour notre région, on va rester dans notre région. Il y a encore aussi, puisque vous appelez aussi Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres, nous avons aussi dans notre région, mais on va revenir très vite avec vous, Vincent Delphi, sur la Sainte-Baume. Nous avons aussi un vénérable qui se prénomme le Père Marie-Antoine de Lavaur, qui est connu comme surnom du Saint de Toulouse, a un lien très significatif avec Sainte Marie-Madeleine, avec Marie-Madeleine,
et puis
encore cette cité Maria Lourdes et les grottes d'Espelugue dédiées à Marie-Madeleine. Alors racontez-nous, vous connaissez toutes les histoires.
Mais rappelez-vous que le 24 février, qui est 1858,
dans cette apparition, que dit
la Vierge Marie à Sainte Bernadette,
à trois reprises,
pénitence, allez baiser la terre pour la conversion des pécheurs. Nous revenons à la pénitente, pénitence. Et voilà que le Père Marie-Antoine, qui a rencontré Sainte Bernadette entre les deux dernières apparitions, au tout début du mois de juillet, donc 1858, et il lui a donné la communion aussi, va avoir l'idée, d'abord il a ramené une croix de pénitence d'un pèlerinage international à Jérusalem, il a ramené cette croix de pénitence qu'il a installée dans la montagne des Espelugues, à Lourdes. Donc,
Le très beau chemin de croix. Hein.
Oui, ça vient de Spelunca, les grottes. Spelunca, la grotte, d'où Spéléologue. Donc, et voilà qu'il y a deux grottes, et avec son neveu qui est architecte, Joseph Rocher, la première grotte au bout du chemin de croix, qui est la plus petite, il va la dédier à Sainte Marie-Madeleine. Ouais. Et celle qui est au-dessus, à Notre-Dame des Douleurs. Toutes les deux se sont retrouvées sous la croix, Notre-Dame des Douleurs et la pénitente de l'Évangile, qui est devenue l'apôtre des apôtres par la demande de Jésus. Voilà. Et là, c'est un signe très très beau du Père Marie-Antoine, qui lui-même a été l'apôtre de Lourdes. Il a écrit sur Lourdes, il a écrit beaucoup sur Lourdes, et il a reçu cette force. Je ferai même une petite parenthèse en disant que à Rennes-le-Château, bien quand on arrive, il y a une statue de Notre-Dame de Lourdes avec pénitence. Or, le Père Marie-Antoine organisait les pèlerinages de la région et la Bessonnière a participé jusqu'à sa mort au pèlerinage à Lourdes. Vous voyez ? C'est très important. Et pourquoi ? Même parce que Marie-Madeleine, elle est la sainte patronne de cette église de Rennes-le-Château et que le pénitence, certainement qu'on le doit au Père Marie-Antoine. C'est lui qui guidait les pèlerinages, voilà. Comme il a consacré à côté la basilique de Notre-Dame de Marseille, non pas au bord de la mer, mais Notre-Dame de Marseille dans un faubourg de Limoux.
Voilà. Alors c'est bien que vous évoquiez la ville même de Marseille, puisque nous évoquons l'apôtre des apôtres, avec cette figure emblématique de Marie-Madeleine présente au moment de la résurrection, qui était présente aussi au calvaire, et qui aussi a voyagé. Si on devait donner ce lien de Marie-Madeleine avec notre pays, notre belle France, et la ville de Marseille. Marie-Madeleine, on l'a fait voyager.
Oui, on l'a fait voyager. Alors beaucoup prétendent que le récit est légendaire. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement tendance à remettre en cause le surnaturel. Toujours est-il qu'il y a une tradition très forte dans notre rire. Et d'ailleurs, c'est surprenant de voir que la plupart des personnages de la Passion se retrouvent dans notre région. Hérode lui-même, Hérode le Grand, est mort à Saint-Bertrand de Comminges. C'est historique, en 39 avec Jésus-Christ. Et puis après, on trouve Zaché, qui est le Rocamadour, vient de là. Et puis Sainte Véronique, à Souillac, qui passe pour être l'épouse de Rocamadour, donc de Zaché. C'est tout à fait étonnant. Et Saint-Luc lui-même, Saint Épiphane nous dit que Saint-Luc aurait suivi Jésus, il a suivi spirituellement, c'est certain, mais il aurait suivi Saint-Paul dans ses voyages en Espagne, donc, et il aurait traversé cette région, Saint-Luc, vous voyez. Et donc, il nous dit qu'il a prêché en Gaule, Saint-Luc. Donc, il y a une sorte de mystère de tous ces personnages-là, si vous voulez, surtout les personnages de la Passion, bien sûr, Marie-Madeleine.
C'est la Sainte Baume aussi, oui, Marie-Madeleine. Voilà.
Hein. Tout à fait étonnant pour la France, oui.
La France, fille aînée de l'Église.
Oui, et qui est préparé sans doute à cette mission. Bon, il y a d'autres, je pense au père Henri Bollot, à la fin du 19e siècle, oui, qui a montré aussi, avec le père Marie-Antoine, c'est un peu après, mais oui, le père Marie-Antoine a fait de Marie-Madeleine une apôtre de la France, bien sûr. Et il la montre comme, je n'ai pas les mots exacts en tête, mais il lui dit, Marie-Madeleine, perle du cœur de Jésus, fille de Marie. Ah, c'est très beau.
Ça, c'est du père Marie-Antoine.
Et puis, qu'as-tu vu en traversant la France ? Et alors là, elle a vu une vision très sombre. J'ai vu qu'on préparait un sépulcre pour la France. C'est pour aujourd'hui, peut-être. Hein. Vous savez ce qu'on vit. Oui, cette fête de la miséricorde divine.
Alors oui, c'est ce dimanche d'ailleurs.
Hein. Voilà, c'est donc ce
Vincent
dimanche.
Vincent Delphi, ce dimanche, je le rappelle.
Et on ne redira
c'est
jamais.
Ce dimanche de la miséricorde, c'est tout le message de Jésus adressé pour son humanité à travers cette humble servante, Sainte Faustine. Je crois que vous avez, et vous pouvez peut-être, à quelques jours de cette fête de la miséricorde célébré dans le monde entier, nous lire un extrait
oui,
de ce passage très fort du Petit Journal.
Elle est née en 1905, elle a vécu 33 ans, hein, comme le Christ, et comme les 33 degrés d'ailleurs, qui montent à, vous le savez,
allez-y,
oui, et bien, qui montent aux fameuses grottes dans la montagne de Lourdes, les grottes des Espélugues, donc dédiées à Marie-Madeleine, la première et la seconde en montant.
Aujourd'hui fermées.
Hein?
Ces grottes sont fermées.
Ces grottes sont fermées. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a ? La croix de pénitence.
Ah, voilà. Vous y revenez, vous voyez, revenez à Lourdes.
Tient,
hein?
Tient,
oui.
Hein?
Mais oui.
Et donc, il va dire à Sainte Faustine, il lui donne ce message. Il lui donne ce message qui est terrible, parce qu'il a dit que de la Pologne jaillira l'étincelle qui préparera le monde à ma seconde venue. C'était pour le pape Jean-Paul II. Et il lui dit ceci, « Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Écoutez bien ceci. Toute âme qui se confessera dans les 8 jours qui précèdent ou suivent ce dimanche de la miséricorde et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs peines. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont rouges comme l'écarlate. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. C'est extrait de son petit journal. À la demande du père Michel Sopoco, elle a écrit ceci. Et moi, Sainte Faustine, sur ordre de Dieu, j'ai pénétré dans l'enfer, où j'ai vu que beaucoup d'âmes doutaient que l'enfer existât. Elle y a même vu des prêtres. Et elle a dit que chacune des âmes était châtiée selon les péchés par lesquels elle avait péché. Voilà, et donc, elle a dit, s'il n'y avait pas eu cette grâce et cette miséricorde, je n'aurais pas pu supporter la douleur qui régnait dans ce lieu-là. Donc, c'est la raison pour prendre très au sérieux cette demande du Christ dans le temps qui arrive. Nous l'avions dit au début de l'émission, mais oui, nous devrions tous être à genoux en ce moment. Il y a des étincelles qui peuvent partir partout, à n'importe quel moment. Nous sommes dans une situation incertaine, mais même beaucoup d'incroyants se rendent compte du temps que nous vivons. Donc, raison de plus pour prendre au sérieux cette demande du Christ. Toute âme qui se confessera dans les 8 jours, qui précède ou suive ce dimanche dans miséricorde et qui communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et de la remise de leurs peines. Mais comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Prenons-le au sérieux.
Alors, on a bien reçu ce message de rappel aussi, message de Jésus au monde, délivré par cette servante de Dieu, Sainte Faustine. Vincent Delphi, vous étiez donc l'intervenant de ce Vivant Église spécial Miséricorde au travers de tous ces visages, en particulier Sainte Marie-Madeleine, Sainte Faustine, Saint Thomas d'Aquin aussi, vous avez évoqué Saint Augustin. Voilà ces grands-pères de l'Église. Oui. Voilà. Et vous avez aussi un livre qui s'intitule « Jésus des mystères de la Bible, autant de confusion », qui s'accompagne de près de 100 chapitres, près de 700 pages. Et puisque vous nous avez lu un extrait à quelques jours de ce dimanche de la Miséricorde, vous consacrez aussi une trentaine de pages à Marie-Madeleine et également à Sainte Faustine. Le titre du chapitre qui concerne Sainte Faustine s'intitule « La miséricorde ou la réalité de l'enfer ». C'est tout un programme. Merci à vous, Vincent Delphi. Nous vous souhaitons encore du bon travail.
Merci, Nathalie.
Études, travail et prière. Et oui. Un prochain rendez-vous dans cette même émission Vivante Église.
Entendu.
Au revoir.
Au revoir.